Le temps ne veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi bon crier dans cet univers des humains? La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon ventre des barons.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquants juvéniles, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Bruit de tôle, au sommaire de cette émission, comment on traite en France, pays des droits, enfin des droits de qui, les étrangers, les sans-papiers, les pauvres, les sans-logis, les mineurs, etc. À Toulouse, expulsion d'un campement. À Bordeaux, incitation au retour pour les mineurs. Mais la lutte est aussi une réalité, lutte collective, comme au CRA de Vincennes. Cependant, à Dunkerque, il faut sauver sa peau face à une police qui tire, tout simplement. Prison-justice, à Muret, et le travail carcéral avec une nouvelle expérimentation. Fresne, où l'on meurt de trop longues peines, un témoignage. Et une justice pour mineurs dénoncée par ceux-là même qui doivent l'appliquer. Après une brève Palestine sur le suivi des prisonniers en grève de la faim, nous aurons des annonces pour ce soir et dans le mois à venir. Bruit de tôle, en direct le jeudi de 19h à 20h. Pendant le direct, vous pouvez nous téléphoner au 05 61 53 36 95 pendant les pauses musicales. Diane nous a quittés jeudi 14 octobre. Ici, sur cette antenne de Canal Sud, Diane a animé l'émission Transmuraille dans les années 80 avec d'autres personnes engagées contre la prison, contre tous les enfermements. Puis, avec l'envolée, ce fut une autre émission plus tard, dans les années 2000-2010, autour du journal, qui un temps a été élaboré ici à Toulouse et auquel Diane a activement participé. Diane était une camarade de lutte contre ce monde capitaliste qui fait la part belle au racisme, aux autoritarismes de tous bords. Militante autonome, mais jamais seule, elle s'est investie dans les luttes anticarcérales contre tous les enfermements. Dans notre prochaine émission de Bruit de tôle qui aura lieu le 11 novembre, avec des invités, nous reviendrons sur son engagement anticarcéral. Le médecin qui l'a suivi lui a rendu un hommage par un communiqué diffusé notamment sur France Inter. En voici de brefs extraits. En quelques jours, près de 40 personnes se sont succédées au chevet de Diane. Elle avait fait des guerres et s'était engagée. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elles étaient toutes là, ses compagnes de lutte, auprès d'elle. Et pour l'aider à passer à la fin, elles se sont mises en rond autour de son lit et ont entonné un chant révolutionnaire espagnol. Sans doute que toute vie est particulière, que toute vie mériterait elle seule un roman. Il y a des vies discrètes, des vies flamboyantes. Je ne suis pas sûre qu'il existe des vies plus réussies que d'autres, et d'ailleurs, c'est quoi une vie réussie? Mais on ne mobilise pas autant de gens à son chevet, autant de tristesse et de joie mêlées, autant d'énergie positive, autant de fraternité et de sororité, sans avoir réussi à laisser quelque chose de profondément beau, de profondément bon dans le cœur et l'histoire des autres. Elle s'appelait Diane. Signée Baptiste Beaulieu.
Octobre dernier, un campement dans le nord de Toulouse a été expulsé sans préavis par la préfecture. Selon le récit de l'association Utopia 56, les policiers étaient présents très tôt le matin et on estime qu'environ 90 personnes, dont une trentaine d'enfants, ont été évacuées. Il leur avait été donné jusqu'à 14 heures seulement pour déplacer leurs caravanes et affaires, mais le chantier de destruction a commencé peu après 13 heures, interdisant l'accès aux habitants et habitantes. Des affaires et caravanes restées sur place ont été détruites, aggravant la précarité des personnes concernées, dont des familles avec enfants. Certaines personnes ont en plus reçu des obligations de quitter le territoire. Quelques rares habitants et habitantes ont reçu des propositions de mise à l'abri, pour une ou deux nuits, dans des hôtels éloignés du campement. Les rares solutions proposées sont donc largement insuffisantes. De nombreuses personnes, dont des familles, des enfants, des personnes âgées ou malades, se retrouvent donc à la rue, sans solution, quelques semaines avant le début de la trêve hivernale. Et le même jour, donc le 6 octobre 2021, la police évacuait un camp de Roms où vivait un groupe de 25 familles, 60 adultes et 20 enfants. Dans un communiqué de Médecins du Monde publié le 8 octobre 2021, l'association s'inquiète pour la santé de la communauté de Roms qui avait un campement situé près de la déchetterie d'Atlanta, chemin de Gramont à Toulouse, et donc qui avait été expulsée deux jours plus tôt. Cette évacuation organisée par la préfecture de la Haute-Garonne a été effectuée à la demande des propriétaires des terrains illégalement occupés avec un soutien de la force publique. Pour les services de l'État, l'objectif affiché était de mettre en sécurité les occupants du campement qui présentait un réel danger car il était situé le long des voies de chemin de fer, soi-disant. Bon, les conséquences immédiates sont la perte de leur abri et l'insécurité face aux aléas climatiques et à la violence sécuritaire ambiante. Mais les parcours scolaires et les parcours de soins sont aussi interrompus, dénonce Médecins du Monde. L'association accompagnait ces familles pour améliorer leur accès à la santé, avec comme objectif de réduire les taux de mortalité qui sont supérieurs à la moyenne de la population française. Deux interventions chirurgicales essentielles prévues en octobre ne pourront pas avoir lieu. Les nombreux suivis de maladies chroniques et les actions de santé materno-infantile en cours vont être interrompues, explique l'organisation. Et dans son communiqué, elle rappelle que les évacuations se sont multipliées depuis la fin de la trêve hivernale en juin 2021. 6 campements ont été évacués et 8 squats ont été expulsés. Ce sont au total 500 personnes qui se sont retrouvées à la rue, dont une centaine d'enfants, puisqu'il n'y a pas eu de solution de relogement proposée. Donc on voit que malgré la situation sanitaire, on continue à mettre des gens à la rue, à tour de bras, en Haute-Garonne.
Et en Gironde, à Bordeaux, c'est pas mieux. Ce qui se passe, c'est la préfecture qui propose des retours volontaires, entre guillemets, à des jeunes qui sont en fait en démarche de recours par rapport justement à leur minorité. 15 jeunes hébergés par le 115, après avoir été expulsés du squat Cabaco à Bordeaux, ont été remis à la rue ce mardi 12 octobre. Ce jour-là, la préfecture leur a proposé de se présenter à un rendez-vous pour entrer dans un dispositif d'aide au retour volontaire. Or, tous ces jeunes sont en recours auprès du juge des enfants. Les associations dénoncent alors une entrave à l'accès à leurs droits. Le couperet est tombé lundi 11 octobre. 15 jeunes étrangers hébergés par le 115 à Bordeaux devaient plier bagages dès le lendemain matin. Ces 15 jeunes ont deux points communs. Tous sont en recours auprès du juge des enfants afin de faire reconnaître leur minorité et leur isolement. Et tous sont issus du squat de Cabaco, expulsé par la préfecture le 23 septembre 2021. Ce squat avait été ouvert au sein d'un ancien bâtiment du conseil départemental en juin 2020. Le jour de l'expulsion, 39 jeunes étaient présents. 5 étaient en pré-évaluation au centre départemental de l'enfance et de la famille. Les 34 autres étaient en recours auprès du juge des enfants. Chacun a reçu une proposition d'hébergement d'urgence via le 115, mais certains ont pris peur et quitté Bordeaux. Cela faisait des mois qu'ils se trouvaient en Gironde, ils ont voulu tenter leur chance ailleurs. 25 jeunes sont restés pour être hébergés dans des hôtels par le 115. Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ces places provisoires n'étaient garanties que jusqu'au 11 octobre. Anticipant l'échéance, plusieurs sont partis à leur tour vers d'autres villes. On perd de vue des jeunes qui deviennent encore plus vulnérables et précarisés. À l'heure actuelle, 15 jeunes demeurent dans le radar des associations qui les suivent depuis le début. Médecins du Monde, le collectif Cabaco et l'association Tremplin. À deux reprises, ces acteurs ont rencontré la préfecture. Une première fois le 24 septembre, au lendemain de l'évacuation, et une seconde le 7 octobre. Au premier rendez-vous, on a demandé de maintenir l'hébergement des jeunes jusqu'au délibéré du juge. La préfecture s'était engagée à le faire, dans la dentelle, au cas par cas. On avait de l'espoir. Mais le 7 octobre, c'est la désillusion. Le matin même de cette réunion, le 115 nous a informé avoir reçu l'ordre de remettre à la rue les jeunes. 8 avaient déjà été mis dehors. C'est ce que dénonce le responsable de Médecins du Monde. Face aux protestations des associations, ces jeunes ont été réintégrés le soir même dans leur hôtel. Seules quelques nuits ont été gagnées. Lundi 11 octobre, le cabinet de la préfète prévient les associations par téléphone que l'hébergement des 15 jeunes prendra fin définitivement le lendemain matin. Elle aurait alors fait une proposition étonnante. La directrice du cabinet de la préfète a précisé qu'un rendez-vous à l'Office français d'immigration serait organisé le jour même pour leur proposer une aide au retour dans leur pays d'origine en échange d'une prolongation de leur hébergement. C'est ce que dit la CIMA des Médecins du Monde dans un communiqué qu'ils ont fait paraître le 12 octobre. Une forme de chantage à l'hébergement, ce que réfute en bloc la préfecture. Ils écrivent tout et n'importe quoi, ce n'a jamais été conditionné à un retour. C'est sur la base du volontariat. Bon, savoir s'il y a eu ou non un chantage explicite ne change pas le fond du problème. À savoir, la préfecture propose à des jeunes en recours, disposant pour la plupart du temps de dates d'audience, d'entrer dans un dispositif d'aide au retour. Pour les associations, il s'agit là d'une obstruction à une démarche d'accès aux droits. La préfecture répond « Au moment où l'on se parle, ces jeunes ont été déclarés majeurs. » Parmi les jeunes concernés, on trouve un jeune Afghan. Interrogé sur la pertinence du retour volontaire au vu de la situation dans son pays d'origine, la préfecture indique ne pas rentrer dans ce niveau de détail. Médecins du Monde assure avoir transmis une liste précise des jeunes avec leur nationalité et les dates d'audience. La défenseure des droits a été saisie. Le jour même, elle a ouvert un dossier sur l'affaire, pris contact avec la préfecture et transmis l'information au ministère de l'Intérieur, selon Médecins du Monde. Pour l'heure, aucun jeune ne s'est présenté donc à l'Office français d'immigration et la préfecture ne bouge pas de sa ligne. On peut les prendre en charge au centre de préparation de l'aide au retour, situé à Libourne et géré par France Horizon, indique-t-il. S'ils ne souhaitent pas, ils relèvent des dispositifs de droit commun par le biais du 115. Une situation révélatrice de l'entre-deux dans lequel sont coincés les jeunes en recours. Ni assez mineurs pour être hébergés par l'ASE, aide sociale à l'enfance, ni assez majeurs pour le 115, qui ne peut recueillir que des personnes majeures. Aujourd'hui, les 15 jeunes dorment à l'abri grâce à de l'hébergement solidaire. Une solution éphémère, ça craque de partout. On leur laisse ça et là un bout de canapé. Cela va durer seulement 2 ou 3 nuits.
Alors on continue avec une information un peu plus réjouissante, même si la répression n'est jamais très loin. Donc c'est un prisonnier du centre de rétention de Vincennes qui raconte une importante action de solidarité menée au début du mois pour empêcher l'expulsion d'un autre prisonnier. Un pote tunisien devait être expulsé. Alors on est rentré à 11 dans la chambre, on a fait semblant de lui dire au revoir et on a bloqué la porte. On était 12. Ils ont essayé de forcer la porte avec un gros truc en s'y mettant à 3. Mais ça n'a pas marché. Pendant 1 heure, ça n'a pas marché. Ils ne pouvaient pas ouvrir la porte. Alors, ils ont appelé une brigade spéciale, les BRI, ceux qui sont cagoulés. Alors, les BRI, ce sont les brigades de recherche et d'intervention, une brigade de la police judiciaire, plus connue sous le nom de police anti-gang. Ils ont utilisé une machine spéciale, une machine électrique qui casse les murs. Ils pouvaient pas prendre une meuleuse parce que nous on était juste derrière donc ça risquait de blesser des gens. Nous on s'est bien marrés, on les faisait chier, on chantait pour rigoler. Donnez-nous 1 million d'euros et on vous donne Monsieur T. Ramenez-nous des pizzas et des frites et on vous donne Monsieur T. Donnez-nous les papiers et on vous donne Monsieur T. Alors ils ont pété les plombs. Après c'était comme un film. Ils ont cassé la porte, les mecs cagoulés nous ont fait sortir et ils ont utilisé le taser. Les gens se sont fait taser. Ils ont mis les serflex, alors ça c'est des menottes en plastique assez rigides. Moi, ils m'ont traîné comme un chien. D'abord, ils m'ont ramené au commissariat. Le médecin a dit que mon état était incompatible avec la garde à vue. Ils ont dû me ramener à l'hôpital pour faire un scanner à la gorge, car ils m'ont étranglé. À l'hôpital, ils ont dit qu'ils pouvaient me ramener au commissariat. Et là, ils m'ont fait la misère. Ils m'ont laissé en caleçon et sans couverture pendant plus de 10 heures. Ils m'ont frappé, j'ai des traces de coups. Normalement, c'est un vice de procédure quand les flics te frappent. Là, il se passe rien. J'ai pas eu de jour d'ITT. Les flics du transfert entre le commissariat et le TGI, le tribunal de grande instance, m'ont frappé. J'ai montré mes blessures au procureur. J'ai soulevé mon t-shirt. Je suis sûre qu'il a fait semblant de noter, mais qu'il s'en fout, car j'ai pas eu de jour d'ITT, d'interruption de travail. On était 6 au commissariat du 20e et 6 au commissariat du 12e. Ça, c'était vendredi matin jusqu'à samedi. Et dimanche, ils nous ont ramenés au tribunal à Porte de Clichy. On a tous eu un rappel à la loi. Sauf le mec qui devait être expulsé, qui est parti en prison en attendant le procès. Il a un avocat. Le jugement, c'était lundi après-midi. Apparemment, il est sorti libre avec un rappel à la loi. Mais moi, ils m'ont changé de bâtiment. On est 6 au bâtiment 1 maintenant. Et les 6 autres, je sais pas. Le commandant du centre de rétention, il est venu nous voir ici hier soir pour nous faire peur. Nous dire que notre pote avait pris 2 ans de prison. Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Le procès avait pas encore eu lieu. Demain, j'ai un vol, alors que j'ai pas eu de test. Normalement, ils peuvent pas mettre d'avion sans test. Moi, je vais refuser. Bon, depuis, on n'a pas eu de nouvelles. On a essayé de suivre sur le site qui avait publié... ce récit de résistance collective à une expulsion, mais on ne sait pas si donc celui qui a fait ce récit a été expulsé ou s'il a réussi à refuser son expulsion.
Et là, c'est à Dunkerque. Alors à Dunkerque, là, c'est difficile pour les exilés. C'était mercredi 22 septembre, à la nuit tombée, la police française a tiré sur des personnes exilées qui s'apprêtaient à traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. 8 personnes du Rojela, Kurdistan iranien, ont essuyé des tirs de LBD à bout portant alors qu'elles mettaient à l'eau des canons pneumatiques qui devaient conduire 40 personnes jusqu'à l'Angleterre. 2 d'entre elles sont blessées et l'une est encore à l'hôpital avec de multiples fractures plus de 10 jours après les faits. Il aura fallu plus d'une semaine pour que ces quelques maigres éléments apparaissent dans les lignes des tabloïds britanniques, de quoi satisfaire le lectorat nationaliste en quête de sensations fortes. Aucun mot, en revanche, dans la presse française, fidèle à sa stratégie de complaisance avec les meurtres perpétrés quotidiennement par l'État raciste et ses chiens de garde des cités jusqu'aux mers. Rappelons que le 12 août dernier, un homme est mort après le naufrage de l'embarcation dans laquelle une trentaine de personnes tentaient de traverser la Manche. En 2020, au moins 9 personnes sont mortes ou disparues dans ces mêmes eaux. En Méditerranée, le carnage est quotidien. Ce seul week-end, du 2-3 octobre 2021, 57 personnes ont péri dans un naufrage au large des îles Canaries et 2 embarcations de respectivement 70 et 40 personnes sont portées disparues dans les eaux libyennes. Tirer sur des personnes en traversée est pratique courante pour de nombreux pseudo-garde-côtes le long de la Méditerranée, comme l'alertent régulièrement les collectifs Alarm Phone et Watch the Med. C'est en revanche la première fois qu'une telle pratique à l'initiative des autorités françaises dans les mers du Nord est rapportée publiquement. Ne laissons pas les États passer sous silence leurs mutilations et meurtres organisés. Et donc, à bas les flics, Frontex et les frontières. Donc, un communiqué paru sur Yatta et qui parle de Dunkerque.
On écoute un petit morceau de musique.
Voilà. céphalothorax bleu.
Alors nous revenons sur la prison de Muret qui en fait serait retenue pour expérimenter la prochaine réforme sur le travail en milieu carcéral. Donc selon l'OIP, cette réforme indispensable est cependant tout à fait inaboutie car elle maintient toujours les travailleurs détenus dans des conditions de main-d'œuvre soumises et malléables. Alors voyons voir, déjà la présentation. Alors savoir que préparer les repas, nettoyer les parties communes ou encore fabriquer des prises électriques, c'est quelques-unes des tâches qui sont confiées aux détenus de la prison de Muret dans le cadre du travail en milieu carcéral. Le projet de loi, qui s'appelle alors pas du tout réforme du travail, hein, le nom du subprojet, c'est pour la confiance dans l'institution judiciaire. On ne voit pas ce que ça a à voir avec le travail, mais enfin bon, c'est le nom du projet de loi. Donc le gouvernement veut réformer ce travail en prison. Le ministre de la Justice souhaite créer un contrat d'emploi pénitentiaire qui permettrait de fixer la durée légale du temps de travail, le régime des heures supplémentaires, les temps de pause, et qui ouvrira des droits sociaux aux personnes incarcérées en vue de faciliter leur réinsertion. En séance des questions orales, il a bien répondu à la sénatrice de la Haute-Garonne. Oui, en effet, Muret sera un centre de référence pour anticiper l'impact de la réforme sur le travail en milieu carcéral. Alors, le centre de Muret reçoit des personnes condamnées à de longues peines et un avocat de 5 détenus de la prison de Muret témoigne que le travail en prison a une importance fondamentale. Ça permet la réinsertion des condamnés et que la prison serve réellement à quelque chose. C'est une bonne nouvelle, dit-il. Parmi ses clients, il s'est aperçu que dès qu'ils commencent à travailler, on voit une différence sur leur morale, sur leur comportement. Leur journée passe plus vite, ils ont toujours quelque chose à raconter au parloir et surtout ça leur donne une formation et un réel projet pour leur sortie. Pour cet avocat du barreau, donc, l'augmentation des possibilités de travail en prison et l'ouverture de nouveaux droits est une avancée très positive. Alors cette loi, donc, je vous rappelle, qui s'appelle « Pour la confiance dans l'institution judiciaire » et qui a été examinée le 28 septembre au Sénat, alors prévoit quand même, et il était temps, eh bien, le droit à l'assurance chômage, à l'assurance maladie à l'issue de la détention, l'affiliation au régime de retraite complémentaire, indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le bénéfice de certaines prestations en cas de maternité, d'invalidité ou de décès. Donc on voit que c'est tout simplement appliquer le droit du travail, quoi. Il n'y a rien de spécial. Le projet prévoit également un encadrement de la durée maximale du travail, du temps de repos, des heures supplémentaires et des jours fériés. Et il tente également de favoriser le lien entre la prison et l'extérieur en prévoyant la possibilité d'effectuer une période de mise en situation professionnelle en milieu libre. Donc malgré ses ambitions, l'OIP, nous, l'Observatoire international des prisons, estime que cette réforme consacre des avancées mais à tout petit pas. Car à trop vouloir préserver les employeurs, faire du travail un outil de gestion disciplinaire, elle maintient les travailleurs détenus dans leurs conditions de main-d'œuvre soumises et malléables. L'OIP ajoute que malgré ces améliorations, le projet de loi n'inverse pas le paradigme qui prévaut actuellement. Il maintient un déséquilibre disproportionné entre les obligations faites aux donneurs d'ordre et les contraintes qui pèsent sur les détenus, et les enferme donc dans un rapport de soumission au premier. Et d'ailleurs, selon un rapport de l'OIP, seulement 28% des détenus travaillent aujourd'hui en prison, en majorité dans des emplois peu considérés. On l'a vu, hein, il s'agit de la restauration, faire des prises, préparer les repas, les nettoyages. Donc, c'est à revoir.
Alors, on va continuer avec des extraits de la lettre de Y, qui est un prisonnier de Fresnes et auditeur de l'émission de L'Envolée, qui est diffusée sur Fréquence Paris Pluriel. Merci pour le coucou à la radio, j'étais content et ça fait super plaisir, j'ai écouté l'émission dans son intégralité. J'étais très émue et certains témoignages m'ont bouleversée. L'affaire de Boris qui est à l'hôpital, son feu de cellule est la conséquence directe de l'administration pénitentiaire. Quand tu es désespéré ou que tu protestes, tu peux aller dans les extrêmes. Souvent, nous sommes poussés à la faute. À la maison d'arrêt, j'ai failli en arriver là lors de ma mise à l'isolement pour accéder à l'UXA, l'unité médicale en détention. Là-bas, ils s'en foutent. Ils te poussent même. C'est grave et dramatique. J'espère qu'il s'en sortira. J'ai écouté attentivement les témoignages téléphoniques. Je ne sais plus son nom. Sylvie, je crois. Elle est vraie et décrit parfaitement la condition de la plupart d'entre nous. Le plus compliqué pour nous, c'est de faire sortir l'info. Trop de souffrance dans nos prisons françaises. Nous devrions prendre exemple sur certains de nos voisins. 19 condamnations à la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas rien. Et notre gouvernement ne réagit pas. Si, en construisant de nouvelles prisons. C'est tellement rentable. La prison est lucrative. Tout le monde dit, il coûte tant, etc. Mais jamais tu ne verras combien rapporte un détenu. Travail à 2 euros brut de l'heure. Télé, frigo, cantine, téléphone. Nous sommes asservis. Nous marchons en coupe réglée, l'un derrière l'autre. Un air de bagne remis au goût du jour par une mort lente et silencieuse. J'ai une phrase en tête de Nell Young. Il vaut mieux brûler franchement que mourir à petit feu. Cette peine de mort commuée en perpète, c'est la destruction de l'individu. Ces peines n'ont aucun sens. Doit-on s'en féliciter de cette abolition? Bien non. C'est les peines entières qu'il faut revoir. C'est de la souffrance 24 heures sur 24 sans répit. Les jours s'assemblent et se ressemblent. Certains deviennent l'ombre d'eux-mêmes. D'autres basculent dans la folie et beaucoup se suicident, un tous les trois jours. Je trouve cette situation alarmante. Un jour, tout va prendre feu. Et maintenant, ils sont équipés de flashballs. Les mutilations et bavures vont se multiplier dans les prochaines années. Il faut se battre pour nos droits, le respect et la dignité. À la maison d'arrêt, avant le parloir, j'attends 20 minutes et après le parloir, 25 minutes. 45 minutes au total pour 45 minutes de parloir. Plus les fouilles à nu intégrales dont j'ai fait l'objet. En 5 ans et demi, j'ai été le plus fouillé de la maison d'arrêt. Plus les fouilles de cellules avec des prétextes fallacieux. Seulement parce que je leur tiens tête et que je suis un minimum instruit et que je me bats contre leur système du tout sécuritaire où l'humain est complètement annihilé. Le témoignage du centre de rétention administrative, waouh, c'est atroce ce qu'ils vivent. La société cache bien la vérité aux gens. Et après, tu vois la Le Pen qui les fustige, leur met tout sur le dos. Je sais pas de quoi ils profitent, ces gens. Leurs conditions sont terribles et indignes de la France, le pays des droits de l'homme, entre guillemets. Je passe bientôt au tribunal de grande instance pour un surveillant qui se pose en victime. Et le mitard où j'ai été torturé, menacé, sans soins, sans chauffage, à poil. J'ai dû boire l'eau des chiottes pour pas clamser. Il n'a qu'un jour d'interruption temporaire de travail. De plus, ils ont merdé grave avec moi. Ils ont trafiqué leur compte-rendu d'incidents. Des connivences dans lesquelles cette maison d'arrêt excelle et qui perdure. Je ne lâche rien. Je vais me battre avec mon avocate. Je compte sur vous, sur votre soutien, les poteaux. J'ai la FO pénitentiaire sur le dos. Je les appelle les caliméros de la maison d'arrêt. Ils font ce qu'ils veulent et le mensonge est leur credo. C'est toujours eux les victimes. C'est dingue, bref. Je ne lâche rien et j'irai jusqu'au bout. En division 2 à Fresnes, je me crois au 19e siècle, mais bon, je gère, j'ai le moral. Ils m'ont enfin mis la lumière en cellule, 5 jours dans une semi-obscurité, ce n'est pas facile. Les parloirs en sous-sol, laisse tomber, c'est de la folie, rien d'agréable. Et c'était donc la lettre de Y, qui datait de septembre 2021 et qui est enfermée à Fresnes.
Alors là, je vais le dire, c'est un appel, c'était un appel du collectif national des professionnels de la justice qui, en fait, le 30 septembre, ont réagi lors de l'application du nouveau code de la justice pénale des mineurs. Ce collectif national des professionnels de la justice tient à rappeler les difficultés présentes et à venir posées par ce nouveau texte et réaffirme la nécessité d'une justice des enfants protectrice et éducative. Il s'adresse aux professionnels de l'enfance et de l'adolescence qui chaque jour répondent aux besoins des enfants et de leurs familles et précise que ce texte n'offre aucune perspective positive dans l'accompagnement des jeunes. Quant à vous, parents et citoyennes, disent-ils, qui êtes préoccupés par l'avenir de vos enfants, sachez que ce texte aggravera la situation des enfants en danger. Avec ce nouveau texte, le gouvernement impose, sans avoir écouté les revendications portées par le collectif, un texte qui renforce une idéologie sécuritaire et gestionnaire, entérinant une politique pénale toujours plus expéditive et répressive. Nous le savons tous et toutes, les difficultés de la justice des enfants ne sont pas liées au texte de l'ordonnance de 1945, mais bien au manque récurrent de moyens alloués à la justice et au secteur de l'enfance depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, tous les secteurs de l'enfance, de la justice, du social, du médico-social souffrent d'un manque de personnel de professionnels formés et aussi de lieux d'accueil permettant l'effectivité des décisions prises et un accompagnement de qualité. Aujourd'hui, la situation est telle que les professionnels ne peuvent plus collaborer les uns avec les autres. La gestion de l'urgence fait perdre en tout sens aux décisions judiciaires et au travail éducatif qui en résulte. Elle ne permet plus aux enfants et à leurs familles de comprendre la décision et la portée des actes jugés. Le contrôle, la répression ne sont pas des leviers pertinents pour agir sur l'ensemble des difficultés rencontrées par les jeunes et leurs familles. Ce code de justice pénale pour mineurs n'est pas la réponse attendue des professionnels, laissée pour compte des décisions politiques. Les inquiétudes sont profondes, les attentes d'autant plus fortes que les carences devenues endémiques de la justice des enfants risquent d'aggraver les difficultés. Depuis le premier jour, nos institutions, leurs représentants et les associations impliquées demandent une autre justice pénale des mineurs au sein d'un code de l'enfance en étant force de proposition pour une justice adaptée aux enfants et aux adolescents. Donc je pense qu'on aura l'occasion dans Bruit de tôle de revenir sur ce nouveau code de la justice pénale des mineurs qui bien sûr enfonce le clou sur le sécuritaire.
C'était un brave gars, loustique du quartier. Un drôle de félaga qu'on faisait plus que la moitié. Un genre de félouse qui nous la jouait balèze. En retournant sa veste, il savait se foutre à l'aise. Ce genre de petit plus, comme qui dirait un zeste, qu'il signait d'un rictus aux braves gens qu'on déteste. Ah, quelle félouse et quelle finesse. Il avait dans les yeux un chouïa de sagesse. Qu'il aimait tes marrons sans filer nos adresses. Aïe aïe félouse, t'étais à l'aise. C'était un brave type sympathique à jacter. Il te retournait les tripes d'une phrase clé. C'était pas la tarlouse qui vient de gaufrer les fraises. Qui pue, qui empeste, qui a des vues sur ton peste. Ne se débine pas. Le phallus aux braves gens qu'on déteste. Ah, quelle félouse et quelle finesse. Il avait dans les yeux un chouïa de sagesse. Qu'il aimait tes marrons sans filer nos adresses. Aïe, aïe, félouse, t'étais à l'aise. Chanson et l'astuce, et l'astique, et la teste. Car j'aimerais savoir s'il faut les aimer noirs, durs ou gays, toutes nos histoires. Oui mais voilà, ça y est c'est fait. Aïe aïe félouse, d'été valet.
Vous avez parlé lors de la dernière émission, ou en tout cas lors d'une émission précédente, de prisonniers palestiniens en grève de la faim. Et donc il y a toujours 6 prisonniers palestiniens en grève de la faim dans les prisons israéliennes sans charge ni procès. Donc il y a quelques jours, il y a une information qui est tombée là-dessus. Donc Kayed Fasfouz est en grève de la faim depuis 97 jours. Sa détention administrative a été gelée, mais pas terminée. Megda Kawasme est en grève de la faim depuis plus de 90 jours. Sa détention administrative a également été gelée, mais pas terminée. Ala Al-Haraj est en grève de la faim depuis 72 jours. Hicham Abu Awash en grève de la faim depuis 64 jours. Shadi Abu Akher est en grève de la faim depuis 56 jours. Et Ayad Al-Arimi est en grève de la faim depuis plus de 27 jours. Donc il y en a pour qui ça commence à être un petit peu des longues grèves. Il risque d'y avoir quand même un peu des conséquences, notamment pour ceux qui commencent à être plus de 2 mois de grève de la faim. Donc dès qu'on a d'autres nouvelles, on vous tiendra au courant, et en tout cas on trouve toujours important de relayer ces initiatives dont on n'entend quand même pas beaucoup parler dans la presse et dans les médias, on va dire dominants.
Et là, c'est pour venir autour du livre qui vient de sortir, Abolir la police, écho des États-Unis, par le collectif Matsuda. C'était au printemps 2020, en plein confinement. On a assisté stupéfait à l'embrasement des États-Unis à la suite de l'assassinat de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, étouffé par la police, et une vague de contestation inédite depuis les années 60 s'est emparée du pays. Manifestations, mobilisations sur les réseaux sociaux, pillages, la singularité de ce mouvement tient autant à son ampleur qu'à la radicalité de ses propositions. Abolish and defund the police, démanteler la police et ses financements, sont des mots d'ordre qui, vus de France, peuvent sembler lointains. Malgré l'importance des mouvements contre les violences policières, remettre en question l'existence même de la police reste ici une vague utopie. Aux États-Unis, ces mots d'ordre s'inscrivent pourtant dans l'histoire de la lutte des Noirs contre l'esclavage et de l'incarcération de masse. Ils s'incarnent aussi dans des expériences de justice transformatrice, de solidarité communautaire, de soins et d'autodéfense féministe. Plus largement, l'abolition du système pénal, police, justice, prison, ne se comprend que dans une perspective de bouleversement total des structures sociales et leur réagencement sur la base de communautés fortes. En traduisant plusieurs textes écrits aux États-Unis ces 10 dernières années, le recueil publié par le collectif Matsuda, ils ont une adresse toute simple qui s'appelle abolirlapolice.org, ce collectif souhaite faire connaître l'histoire, les luttes et les expérimentations du mouvement abolitionniste. Parce que nous pensons que les débats et pratiques autour de l'abolition du système pénal sont trop peu connus en France et en Europe, parce que nous voulons contribuer à les partager, parce que nous voulons apprendre à vivre sans police, nous avons donc invité le collectif Matsuda à présenter son livre. Nous aimerions que cette parution soit l'occasion d'une rencontre entre toutes celles et ceux touchés par l'idée de l'abolition de la police, des collectifs anticarcéraux aux collectifs de proches des victimes de violences policières, en passant par les collectifs queer et féministes et les franges les plus radicales des mouvements sociaux. Donc, il y a une invitation pour ce soir, jeudi 21 octobre, à 19h, au local 6 rue Pecmil, quartier Saint-Cyprien, pour rencontrer les membres du collectif Matsuda et discuter de leur travail. La présentation du livre sera suivie d'ateliers de mise en situation pour imaginer un monde sans police. Donc, même si vous écoutez l'émission, il n'est pas trop tard pour vous rendre au local 6 rue Pecmil, dans le quartier Saint-Cyprien.
Et après, on voulait aussi relayer 2 initiatives autour de Georges Abdallah. Donc déjà, je vais rappeler qui est Georges Ibrahim Abdallah, qui est un communiste libanais et combattant de la résistance palestinienne. Il a été arrêté à Lyon le 24 octobre 1984 et condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité par un tribunal spécial pour complicité dans l'exécution d'un agent du Mossad et d'un attaché militaire états-unien. Au même moment, Israël occupait le Liban et massacrait les peuples palestiniens et libanais durant une terrible offensive militaire. Libérable d'après le droit français depuis 1999, Georges Abdallah est toujours en prison suite aux pressions diplomatiques directes des États-Unis et d'Israël et à la ferme volonté de la France de défendre ses intérêts dans la région. Libéré en 2013 par la justice française, il a été maintenu en prison sur décision politique du ministère de l'Intérieur. Donc, ce soir, il y a une projection, donc on est jeudi 21 octobre, il y a une projection à 20h30 de Fedaïne, le combat de Georges Abdallah, donc en présence du collectif Vacarme Film, du collectif Palestine vaincra est de Saïd Bouamama, qui est l'auteur de l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, paru chez PMN Éditions. Ça se passe à l'American Cosmographe, 24 rue Montardi, métro Capitole. Et il n'est pas trop tard pour vous y rendre, hein, puisque vous avez un petit peu le temps d'y aller. C'est à 20h30, donc. Et ce samedi 23 octobre, à 14h, est organisée une manifestation qu'on peut dire qu'elle est annuelle, hein, puisque tous les ans, donc, il y a une manifestation à Lannemezan, donc dans le 65, de la gare à la prison, où Georges Ibrahim Abdallah est incarcéré. Et donc, il y a un départ en bus de Toulouse à prix libre, dont le rendez-vous est fixé à 11h30 au métro Basso Combo. Vous pouvez trouver donc d'autres informations sur le site du collectif Palestine Vaincra. Donc on vous rappelle donc ce samedi 23 octobre, manifestation pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah à 14h à Lannemezan, ou un départ de Toulouse à prix libre en car à 11h30 au métro Basso Combo, donc sur la ligne A.
Alors, une autre information, ça c'est l'anniversaire en fait de Banc Public, 20 ans après. Banc Public, qui est une association qui a travaillé, donne des infos sur Internet par rapport à la prison. Et ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est qu'au lieu de faire une rétrospective, c'est tout un travail de réflexion sur la prison avec différentes thématiques qui sont approchées et qui, ça se passe sur un an, sur toute l'année, et dans des lieux différents. Alors le thème numéro 2, c'est la santé en prison, et ça, c'est, ça sera le 13 novembre 2021. Alors ça se passe à Rouen, mais comme je sais que Canal Sud est écouté, n'est-ce pas, sur Internet, on peut donner des informations qui se passent ailleurs qu'à Toulouse. C'est le samedi 13 novembre de 10h à 16h30 dans le local de l'association La Boussole. Alors, c'est rue Georges d'Amboise, pour ceux qui connaissent Rouen. En tout cas, si vous voulez des informations plus précises, il faut tout simplement aller sur 20 ans. 20 ans, le chiffre, 20, 2, 0, ans, @banpublic.org. Ils ont prévu le 22 janvier 2022 de parler de la prison pour ceux qui sont dehors. Puis, au mois de mars, la vie quotidienne en prison. Au mois de mai, préparer sa réintégration. En septembre, les autres personnes en prison. Et le 5 novembre, le sens de la peine. Ensuite, il y aura une restitution finale des travaux de ces journées de travail, puisqu'il s'agit le matin de découvrir le thème et que les invités, en 10 minutes, font un constat sur le thème présenté. Et ensuite, la journée du 13 novembre est organisée, on l'avait dit, toute la journée, donc matin, après-midi et clôture, jusqu'à 16h30 à Rouen. Voilà, c'est, vous avez le temps, hein, c'est le 13 novembre, mais on trouvait intéressant de suivre peut-être les travaux qui seront faits par Banc Public.
Et une date encore plus lointaine, mais bon, c'est bien de... d'être au courant à l'avance, hein, ça permet de s'organiser aussi. Donc c'est l'association Griselidis, donc association toulousaine, une association de santé communautaire à destination des travailleuses et travailleurs du sexe, qui ouvre ses portes donc le mercredi 24 novembre de 10h à 13h. Donc ça s'adresse à qui ? Ben, par exemple aux professionnels du secteur associatif, social, sanitaire, médical, juridique, qui peuvent être confrontés à la question de la prostitution, qui peuvent rencontrer des travailleurs et travailleuses du sexe au sein de leur public, qui ont parfois orienté des personnes vers Griselidis. Ça s'adresse aussi aux étudiants et étudiantes qui souhaiteraient effectuer un stage à Griselidis, qui réaliseraient un dossier ou un mémoire sur la question de la prostitution, si c'est juste une thématique qui vous intéresse et que vous aimeriez aborder au cours de vos études. C'est aussi ouvert si vous êtes un ou une partenaire de l'association, si vous soutenez cette association et aimeriez en apprendre plus sur ses activités. Donc, Griselidis accueille toutes et tous les travailleuses et travailleurs du sexe sans jugement ou discrimination en fonction du sexe, du genre ou de la sexualité, et dans le respect des choix professionnels et identitaires de chacun chacune. Tous les membres de l'équipe sont soumis au secret professionnel et vous garantissent la confidentialité des informations vous concernant. Nous pouvons vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches de santé, d'emploi, de logement, d'accès de droits communs, de lutte contre les violences et discriminations, d'accès au séjour et au droit d'asile. Donc le local est ouvert tous les mardis après-midi de 14h à 17h30 sans rendez-vous. Lors de cette permanence, donc vous pourrez rencontrer un ou une membre de l'équipe de Grésil 10 en entretien individuel. Vous pouvez aussi simplement passer boire un café, vous faire quelque chose à manger, venir chercher du matériel de prévention et de réduction des risques, utiliser l'ordinateur qui est à votre disposition et rencontrer d'autres travailleuses et travailleurs du sexe. Chaque semaine, vous pouvez bénéficier gratuitement d'une permanence d'avocat et d'une séance de régulation du stress. Et Grésil 10 organise un jeudi sur deux un repas convivial ouvert à tous et toutes les travailleurs et travailleuses du sexe, les putes, les tapins, les prostituées, les escortes. Il est possible aussi de proposer un menu et du coup, elles font les courses et le repas est préparé collectivement. Donc je rappelle, donc on annonce les portes ouvertes de l'association Grésil 10 le mercredi 24 novembre 2021 de 10h à 13h.
Nous avons été accompagnés musicalement par les Négresses Vertes pour cette émission. Je vous rappelle que l'émission est en direct le jeudi de 19h à 20h, qu'elle est rediffusée le vendredi de 17h à 18h, et que la prochaine émission, exceptionnellement, ce sera donc le 11 novembre. Parfois, on ne fait pas tous les 15 jours, hein. Des fois, on change notre calendrier. Voilà. Bon courage à tout le monde et bonsoir.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie, pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. mon copain, la vie est douce. Vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.